Il est 18h, c'est l'heure du journal. Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La pression se renforce sur la Russie après le Royaume-Uni. Les États-Unis, la France et l'Allemagne jugent que la responsabilité russe est la seule explication plausible à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. En Syrie, les civils tentent de fuir les combats. Des milliers de personnes ont quitté aujourd'hui deux villes rebelles de la Ghouta orientale. Même mouvement dans le nord-ouest de la Syrie. En 24 heures, plus de 30 000 civils ont fui les bombardements turcs sur Afrin. Mobilisation de retraités en France. Ils défendent leur pouvoir d'achat et refusent la hausse de la CSG. Des professionnels de l'aide aux personnes âgées tentent eux aussi de se faire entendre. À Mayotte, les effets du blocage de l'île se font durement sentir. L'hôpital a du mal à s'approvisionner en médicaments et en oxygène. Les États-Unis, la France et l'Allemagne se joignent à Londres pour accuser la Russie de l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Le 4 mars, l'ex-agent double russe et sa fille étaient victimes d'une attaque à Salisbury dans le sud-ouest de l'Angleterre. La Russie nie toute implication dans cette tentative d'assassinat et promet de riposter aux sanctions annoncées hier par Theresa May. La première ministre britannique apprécie donc le soutien que lui apportent ses alliés. La correspondance de Marina Daras à Londres.
En visite pour la première fois à Salisbury, la première ministre britannique Theresa May s'est félicitée de l'unité de ses alliés face à la Russie. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Emmanuel Macron, qui avait condamné mardi une attaque inacceptable, hésitait à soutenir officiellement le Royaume-Uni, contrairement à Berlin ou Washington. La France attend de connaître les conclusions définitives de l'enquête avant de prendre toute position, avait même indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, en se refusant à toute politique fiction sur la réponse à apporter. Mais Theresa May s'est entretenue ce matin avec Emmanuel Macron et dans la foulée, Londres, Berlin, Paris et Washington publiaient un communiqué officiel estimant que la responsabilité russe était la seule explication plausible à l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Au lendemain de la réunion de sécurité des Nations Unies, les quatre pays demandent à Moscou de fournir toutes les informations sur le programme chimique Novichok, l'agent neurotoxique qui a servi à l'empoisonnement et qui a été créé dans les années 80 par des scientifiques soviétiques. Une alliance qui doit réjouir la première ministre britannique affaiblie dans son pays par les négociations sur le Brexit. Son bras de fer avec Moscou lui a permis de resserrer les rangs à Westminster mais aussi à Bruxelles. Même le tempétueux ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui défie régulièrement l'autorité de la chef du gouvernement, affiche depuis plusieurs jours une loyauté sans faille.
Et Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. Là, rien à voir avec l'affaire Skripal. Il s'agit d'une réaction à l'ingérence présumée de la Russie durant la campagne présidentielle américaine de 2016 et de cyberattaques. Ces sanctions concernent 19 responsables gouvernementaux et oligarques russes accusés d'activités déstabilisatrices. Leurs avoirs vont être gelés. La Russie est donc sous la pression internationale à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a un an, c'est pour le non-respect des libertés individuelles qu'elle était pointée du doigt. Le journal moscovite Novaya Gazeta avait alors dénoncé les crimes dont étaient victimes des homosexuels, notamment en Tchétchénie. Claude Bruyot a voulu faire le point sur la situation aujourd'hui.
Ibrahim Arsanov, l'imam de la plus ancienne mosquée de Grozny, est un proche de Ramzan Kadyrov, l'homme fort de la Tchétchénie. Formé pour une part en France, il est l'un des représentants de la branche soufi Najbandia de l'islam, la plus ouverte parmi les différents courants de la religion. Mais lorsqu'on évoque avec lui l'enquête du journal Novaya Gazeta, qui a dénoncé les tortures, assassinats, emprisonnements et autres crimes d'honneur contre les homosexuels dans son pays, il s'offusque, s'inscrit en faux et finit par condamner à son tour.
Ce thème n'a jamais été notre agenda. Jamais, bon, l'histoire.
Et vous pensez que c'est pas vrai, tout ce qui a été dit, c'est pas vrai?
À part cette provocation informationnelle, on n'a jamais eu ce problème-là. Mais puis-je vous poser une autre question?
Oui.
Pourquoi ce thème de ce genre-là en Tchétchénie est devenu si principal, si majeur pour la presse occidentale? Peut-être il y a d'autres choses qui sont très importantes, mais pourquoi? Vous savez très bien que...
Mais parce que c'est une question de liberté individuelle.
Non, ce n'est pas une... C'est une question de perversité. C'est pas une question de liberté individuelle, c'est une question de perversité. C'est une question de perversité, voilà. C'est ça notre différence conceptuelle. Pour nous, ce problème-là avec ces gens dont vous parlez, ce n'est pas une question de la liberté personnelle, C'est une question de perversité personnelle, voilà.
Un an après les révélations de Novaya Gazeta, le sujet reste d'actualité. Mais si l'objectif du pouvoir tchétchène était de faire fuir les homosexuels du pays, il a probablement été largement atteint. Michel Rochtin est chercheur spécialiste des questions orientales à l'Académie des sciences à Moscou.
Si nous considérons les cas comme la Tchétchénie, ça je peux dire à mon avis que c'est une société pas seulement musulmane, mais aussi très archaïque. Archaïque, donc il y a les traditions qui vraiment sont contre ce type de relation. Les cas existent et nous connaissons. Nous ne connaissons pas peut-être assez bien avec les lesbiennes, mais c'est sûr qu'il y a les hommes homosexuels. Et même comme nous connaissons, il y avait des cas de torture, des prisons. Nous ne savons pas si c'était vraiment grande prison ou petite prison, mais nous savons que les cas d'isolement et les cas de torture, cela existait, cela est prouvé. Mais je crois quand même c'est un cas qui ne donne pas l'image à toute la Russie. Parce que c'est vraiment, il y a les cas seulement dans les républiques qui jusqu'ici ont un système social archaïque.
Selon Amnesty International Russie, qui travaille avec le mouvement LGBT à Moscou, au total 106 cas d'homosexuels ayant été victimes d'agressions plus ou moins graves ont été répertoriés dans tout le pays en 2017.
Claude Briot, correspondant de France Culture en Russie. Les présidents russes, iraniens et turcs doivent se réunir le 4 avril à Istanbul pour un sommet consacré à la Syrie. Actuellement, les civils tentent de fuir les lieux de combat. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en 24 heures, plus de 30 000 personnes ont fui les bombardements sur la ville kurde d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie. Et dans la Ghouta orientale, près de Damas, où le régime syrien a repris la ville d'Amourye, des milliers de civils ont fui l'enclave rebelle. Les précisions de notre correspondant dans la région, Omar Waman.
C'est en progressant à partir du sud de la Ghouta que les forces du régime syrien, précédées par des raids aériens d'une rare violence, ont pu percer les lignes rebelles avant d'entrer dans la ville d'Amourye, un des bastions de l'opposition, et ouvrir une brèche dans laquelle des milliers de civils se sont rapidement engouffrés à pied sur des motos ou dans des voitures surchargées. Parmi eux, de très nombreuses femmes et enfants qui ont pu fuir à travers un couloir établi par le régime syrien et supervisé par l'armée russe. Face à l'avancée des forces de Damas, les rebelles ont fini par se retirer de plusieurs localités, Amourye, mais également Kafar Batna et Jisrin, ce qui permet au régime de Bachar el-Assad de contrôler désormais près de 70% de l'enclave. Les prochains jours seront décisifs. Des négociations ont déjà commencé entre l'opposition et le régime qui devraient déboucher sur une évacuation des insurgés de Douma, grande ville de la Ghouta, vers le nord-ouest de la Syrie, dernière zone qui échappe au pouvoir de Bachar el-Assad.
La justice israélienne suspend le plan prévoyant l'expulsion de milliers d'Africains saisis par des organisations de défense des migrants. La Cour suprême a gelé ce plan jusqu'au 26 mars, demandant à l'État un argumentaire légal détaillé. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou veut expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Il leur donne le choix entre un retour dans leur pays d'origine, un départ pour un pays tiers ou la prison. Alerte sur l'eau en bouteille. Selon une étude menée dans 9 pays et sur plusieurs continents, l'eau en bouteille de nombreuses grandes marques est contaminée par de minuscules particules de plastique dont les dangers sont méconnus, les dangers sur la santé. Véronique Rubéros.
Oui, ceux qui évitent en tout cas soigneusement de boire l'eau du robinet parce que moins fiable, moins pure que l'eau en bouteille vont moyennement apprécier la nouvelle. De grandes marques, effectivement, mondiales en bouteille, non seulement des eaux minérales, mais aussi de minuscules particules, donc de plastique. Parfois, on en retrouve également dans des bouteilles en verre. Alors, les tests menés dans 9 pays sous la conduite d'une chercheuse américaine révèle que du plastique a été trouvé dans 93% des échantillons d'eau en bouteille. Evian, San Pellegrino, Nestlé Pure Life font partie des marques notamment incriminées. Ce sont des particules de petite taille, vous l'avez dit, par exemple du polypropylène, principalement utilisé dans les emballages alimentaires. Parfois aussi, il y a des particules de très 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 petite taille, du plastique qui provient, expliquent les chercheurs, certainement du processus lui-même de mise en bouteille, du processus industriel d'embouteillage, comme il y a le bouchon également de la bouteille. Des microplastiques ont été retrouvés ainsi, c'est pour ça, dans des bouteilles en verre aux bouchons en plastique. Une précédente étude avait montré que des particules en plastique étaient idéalement présentes dans l'eau du robinet, mais en moins grande quantité, ce qui fait dire à la chercheuse que l'eau du robinet, globalement, est beaucoup plus sûre que l'eau en bouteille. Quant aux effets de ces particules de plastique ingérées par notre organisme, on ne connaît effectivement pas tout à fait l'étendue des risques sur notre santé. Un lien a toutefois été établi déjà entre certains cancers, la diminution aussi de la quantité de spermatozoïdes ou l'augmentation de certaines maladies comme l'autisme.
Le plastique, c'est pas si fantastique. Merci Véronique Reberot. Macron, t'es foutu, les vieux cons sont dans la rue. C'est l'un des slogans entendus à Nice cet après-midi. Pour la deuxième fois, des retraités se sont mobilisés pour dénoncer la hausse de CSG destinée à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie du privé. Entre 11 500 et 15 000 personnes ont défilé dans plusieurs villes de province. Damien Triomphe, vous avez suivi le cortège parisien qui a rassemblé plusieurs milliers de manifestants. Et les retraités que vous avez rencontrés assurent qu'ils ne sont pas des privilégiés.
Non, ils n'ont pas de privilèges, même si les manifestants croisés n'ont pas de petite retraite. Ils le disent, plutôt des pensions au-dessus de la moyenne française, qui est un peu moins de 1300 euros net.
En tout, je déclare 2800 euros par mois de revenus.
À deux, vous avez 2200 euros?
Non,
chacun. J'ai 2300 euros de pension. On vient de m'envoler 50 euros. Bon, je vis correctement, pas plus.
Ces 50 euros de moins, c'est donc la hausse de la CSG. Et quand Emmanuel Macron parle d'un effort demandé aux plus âgés, ça ne passe pas, notamment pour Yannick.
Mais les efforts, on les a déjà faits depuis 2014. Hein. Si tout a été raboté, nous, on a toujours travaillé. Quoi. Je veux dire, 43 ans sans répit. Alors, je sais bien que le système, c'est pas de la capitalisation, c'est de la répartition, mais bon, ça s'est un peu floué quand même.
Quant aux compensations annoncées par le gouvernement, comme la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup disent que c'est du vent, comme Viviane et Michel, 2200 euros de revenus chacun.
On gagne de trop, 2200 euros, c'est trop. On avait des retraités riches.
Quand mon fils était au chômage, quand il a fallu l'héberger parce qu'il n'avait plus de logement, qu'il n'avait plus rien, je ne l'ai pas attendu, monsieur Macron, je l'ai fait.
Ils disent aider leurs enfants financièrement, parfois même leurs parents. Alors l'appel à la solidarité transgénérationnelle, ils ne veulent pas en entendre parler.
On touche toujours le même. La classe moyenne, les retraités, tous ceux qui ont bossé.
Qu'est-ce que vous dites, madame ?
Je vends mon appartement à Paris et je pars prendre ma retraite au Portugal. Là, je peux plus. Hollande nous a augmenté déjà les tranches d'impôts. Macron, il leur fait une couche.
Ras-le-bol, c'est le mot d'ordre. Au-delà de la hausse de la CSG, beaucoup disent d'ailleurs qu'ils manifesteront aussi le 22 mars.
À la grogne de certains retraités s'est ajouté aujourd'hui le mouvement de personnel des EHPAD, les maisons de retraite médicalisées. Ils réclament une rapide augmentation des effectifs pour être en mesure de s'occuper correctement des personnes âgées dépendantes en respectant leur dignité. À la mi-journée, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reçu une délégation de représentants syndicaux, mais elle n'a pris aucun engagement, d'où la déception des manifestants, Annabelle Grelier.
Pour soigner décemment, il faut quoi ? Des sous immédiatement !
À grand renfort de haut-parleurs, sous les fenêtres de la ministre, les manifestants attendent.
On propose à Madame Buzyn de venir passer une journée en EHPAD.
À l'intérieur, l'intersyndicale a enfin obtenu audience auprès d'Agnès Buzyn.
La nuit, elle risque de se retrouver toute seule. Faudra pas qu'elle vienne se plaindre.
Se plaindre ? Marina, elle, ce n'est pas son genre. Aide-soignante en EHPAD, elle a profité d'un jour de congé pour venir dénoncer ses mauvaises conditions de travail.
C'est des toilettes à la va-vite. Tout ça me répugne. C'est sûr que quand je rentre chez moi, je n'ai pas la conscience tranquille. Bah, j'ai dit, oh, bah, cette personne, je n'ai pas eu le temps de le coucher, je suis obligée de le laisser. Le pauvre, il va attendre. L'équipe de nuit, ils sont que deux dans les EHPAD pour 76 résidents. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on se sent un peu coupable d'avoir laissé le résident qu'il n'a pas été au lit. Et quand vous êtes dans un fauteuil toute la journée, moi, j'aimerais pas être à sa place, quoi.
Un personnel pour un résident, ce ne sera pas possible. Le gouvernement a déjà répondu qu'il n'avait pas les moyens financiers, ce qui fait bondir Marina.
C'est pas un argument de dire qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont qu'à placer leur argent où il faut, où il en a besoin. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on en a besoin dans les EHPAD.
Lors du mouvement de grève du 30 janvier, Agnès Buzyn avait débloqué 50 millions d'euros pour les EHPAD en difficulté. Les personnels en attendent beaucoup plus. Margot Leduc-Leroy, secrétaire fédérale Sud Santé.
Non mais là, c'est plus des gestes et des miettes qu'on attend. C'est un choix de société. Est-ce que aujourd'hui, on veut laisser notre population vieillir dans des mouroirs où ils sont maltraités ? Est-ce que aujourd'hui, on considère que s'occuper des personnes âgées, des plus fragiles, c'est les métiers les plus dévalorisés dans la société. Il faut quand même savoir que dans l'aide à domicile et dans les EHPAD, on est les numéros 1 des accidents de travail. Ça veut dire que c'est plus dur que de travailler dans le bâtiment.
Agnès Buzyn présentera fin mars sa feuille de route pour la prise en charge du vieillissement.
Annabelle Grelier, les syndicats de cheminots se concertent en ce moment. Ils projettent un appel commun à la grève contre la réforme de la SNCF. Au ministère des Transports ce matin, les dirigeants du groupe public ont présenté à Elisabeth Borne les bases du projet stratégique qu'ils doivent présenter en juillet. Et vous avez suivi la présentation de Guillaume Pépi à Kim Kasmi.
Gagner en compétitivité pour faire face à la concurrence, c'est l'objectif de la feuille de route présentée par Guillaume Pépi. Pour y parvenir, le PDG de la SNCF préconise de décloisonner le management pour faciliter le pouvoir de décision, de développer le numérique, mais aussi d'investir massivement dans le réseau avec l'aide de l'État qui doit apporter 46 milliards d'euros sur 10 ans. Guillaume Pépi.
Les décisions qui ont été mises sur la table par le Premier ministre et la ministre, c'est d'augmenter jusqu'à 2026 de 50% les dépenses de modernisation des voies ferrées existantes. Et ça ne va pas être simple. SNCF Réseau devra mener 1300, 1400, 1500 chantiers chaque année sur le réseau. Et il va falloir faire en sorte que la qualité de service et l'information des voyageurs ne soient pas impactées.
Autant de décisions qui ne devraient pas calmer la colère des syndicats. D'autant qu'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a confirmé la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF. Un choix qu'elle assume.
Moi, je ne comprends pas la grève alors que la concertation est en cours sur des sujets très importants pour les cheminots, qui sont les préoccupations dont ils m'ont parlé quand je les ai rencontrés ces derniers jours sur le terrain. Les réponses, elles sont à bâtir dans la concertation, dans la négociation, ces sujets-là. Les cheminots attendent des réponses. La concertation doit permettre d'apporter ces réponses.
Réunie en ce moment, l'intersyndicale devrait voter pour une grève dure qui devrait commencer dès la fin du mois.
Les militants socialistes votent pour choisir leur premier secrétaire. À l'issue de ce premier tour, il restera deux candidats sur les quatre en lice actuellement. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel. Les résultats seront annoncés demain et un second tour départagera les deux finalistes le 29 mars. À Tours, Françoise Nyssen défend la proposition de loi contre les fausses nouvelles. Aux assises du journalisme, la ministre de la Culture a souligné la viralité des fake news sur Internet et la nécessité de garde-fous pour les endiguer. L'enjeu, explique Françoise Nyssen, c'est d'améliorer l'efficacité de nos réponses avec un mot-clé, la responsabilisation des plateformes. Elles ne peuvent pas se retrancher derrière leur statut d'hébergeur pour ne rien faire. La grève se poursuit à Mayotte et le mouvement qui dure depuis plus de trois semaines a de plus en plus de conséquences économiques et sanitaires pour l'île. À l'hôpital, dans les stations-service et les supermarchés, la pénurie guette et les habitants s'inquiètent. Le reportage de Sandrine Etoa-Andeg à Mamoudzou.
Dans ce supermarché de Mamoudzou, Kelsey vient de ramasser les quatre derniers paquets de lingettes. C'est pour son bébé de deux semaines. Il a peur de revivre les pénuries lors de la grève générale de 2011. Aujourd'hui, les deux grands groupes de distribution estiment avoir encore des stocks pour une dizaine de jours.
Des lingettes, après je vais voir le lait, je vais acheter des couches, j'anticipe quoi. Peut-être que ça va être la même chose, hein, parce que maintenant c'est les magasins qui sont plus approvisionnés. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Hein, donc je ne sais pas comment on va faire après. On prend ce qu'il y a. Et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus.
Mayotte dépend à 95% des importations par voie maritime. Le port de Longoni, dans le nord, est un endroit stratégique. Il est à l'arrêt. Une catastrophe pour ce transitaire qui préfère rester anonyme.
Il y a deux poumons sur une île, hein. Un port et un aéroport. Le port est bloqué depuis maintenant 8 jours, donc il n'y a plus aucun fret qui ne sort du port de Longoni. Donc ça veut dire que nos clients sont en rupture. On a du périssable, on a des médicaments, tout type de fret qui peuvent exister, tout ce qui peut rentrer sur une île, la nourriture, des produits de première nécessité. Il ne faut pas que ça dure.
À Kaweni, dans l'une des stations-service de l'île, des hommes patientent à l'ombre, allongés ou assis sur le trottoir. Devant eux, quatre files de voitures sont stationnées, dont celle de Sendou.
Nous espérons qu'ils nous livrent du carburant ce matin.
Ça fait combien d'heures que vous attendez ?
6 heures de temps. Moi, je soutiens la grève, mais pas la manière. D'autant plus, bon, je ne sais pas comment on peut faire une grève sans manger, sans boire, sans circuler, quoi. Donc, barrer la route, la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment idiot.
Malgré les instructions du collectif, certains véhicules du SAMU ont été bloqués sur des barrages. Par ailleurs, dans le seul hôpital de Lille, Catherine Barbézieux, la directrice, s'inquiète pour les stocks. Certains antibiotiques n'ont pas été livrés.
Aujourd'hui, nous avons entre 24 et 48 heures de stock, ce qui est très très insuffisant pour faire tourner un établissement.
De quel stock vous parlez ?
Je parle des différents stocks, hein, que ce soit les médicaments, il y a les fluides médicaux aussi pour lesquels les approvisionnements sont compliqués. Mais ça peut être le linge, les dispositifs médicaux et puis un produit sur lequel nous sommes en rupture de stock actuellement, ce sont les couches culottes pour enfants.
Autre conséquence sanitaire de cette grève générale, ce sont les poubelles qui s'accumulent à chaque coin de rue. Elles n'ont pas été ramassées depuis plus de 2 semaines dans 16 des 17 communes de l'île. Les camions ne peuvent pas franchir les barrages. Selon le CEDIVAM, l'organisme chargé de la collecte, entre 3 et 4 000 tonnes de déchets patientent sous une température de 30 degrés.
Sandrine Etoua-Andegue, envoyée spéciale de France Culture à Mayotte avec Laurent Maquetti à la technique. Le temps sera variable demain avec encore des averses et localement de l'orage. Le quart sud-est profitera de belles éclaircies matinales avant de recevoir lui aussi de la pluie. Il fera 3 à 12 degrés le matin du nord au sud, 9 à 18 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.